France Musique. Musicopolis. Dmitri Chostakovitch, une signature musicale. Vous avez bien entendu, c'était le nom de Dmitri Chostakovitch. Il le met en musique dans une petite pièce de 1966 intitulée « Préface à l'édition complète de mes œuvres et brève réflexion sur cette préface ». À la suite de son nom, il décline ses titres. Dmitri Chostakovitch, artiste du peuple de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, suivi de nombreux autres titres honorifiques, premier secrétaire, Union des compositeurs de l'URSS, ainsi que mains autres postes et fonctions d'une importance considérable. Dmitri Chostakovitch.
Народный артист СССР. Очень много и других почетных званий. Первый секретарь Союза композиторов РСФСР. Просто секретарь Союза композиторов СССР. А также очень много других весьма ответственных нагрузок и должностей.
On entend bien dans la manière dont Chostakovitch met ses titres en musique qu'il n'éprouve pas pour Isse un respect forcené. Il est là plutôt dans le domaine de l'humour, de l'ironie, du burlesque, des caractéristiques qui, à l'époque du régime soviétique, sont totalement en dehors de la bienséance. Ce qui explique d'ailleurs la création plutôt chaotique de la pièce à Leningrad, le 28 mai 1966. On raconte que la basse, Yevgeny Nesterenko, qu'on entend ici, très émue, a loupé son entrée après l'introduction du piano. Chostakovitch, qui l'accompagne ce soir-là, recommence une deuxième fois. Nesterenko ne part toujours pas. Enfin, à la troisième fois, tout s'enchaîne. La nuit même, Chostakovitch faisait une crise cardiaque qui allait le laisser 2 mois et demi à l'hôpital.
Мараю я единым духом лист. Внимаю я привычным ухом свист. Потом всему терзаю свету слух. Потом печатаюсь и в лету бух. Такое предисловие можно было б написать не только к полному собранию моих сочинений, но и к полному собранию сочинений многих, очень, очень многих композиторов, как и советских, так и зарубежных. А вот и подпись Дмитрий Шостакович.
Ceci est une préface qui aurait pu être écrite pas seulement pour mes œuvres complètes, écrit Chostakovitch, mais également pour les œuvres complètes de bien d'autres compositeurs, à la fois soviétique et étranger. Et en voici la signature, Dmitri Chostakovitch. Si je laisse la musique s'arrêter après le nom de Dmitri Chostakovitch, c'est que je voudrais vous mettre dans l'oreille ce petit motif de 4 notes, répété 2 fois, sur lequel son nom est prononcé.
Dmitri Chostakovitch.
Ce motif, qui en note française se dit ré mi bémol do si, se dit en notation allemande D, S, C, H, qui sont aussi les initiales du compositeur dans la version allemande de son nom. Une signature, en quelque sorte. Il y a longtemps que les compositeurs jouent avec les lettres de leur nom et signent avec des notes, depuis le Moyen-Âge. Et lorsque Schumann ou Liszt ou Poulenc, parmi bien d'autres, écrivent les notes si bémol, la, do, si bécard, par exemple, c'est-à-dire en allemand B, A, C, H, ils font évidemment référence à Bach. Je pense que vous avez compris, j'aurais pu vous citer des tas d'autres musiciens dont on a traité les lettres du nom pour en faire des petits motifs musicaux. Mais là n'est pas notre propos du jour. Revenons à nos moutons en la personne de Dmitri Chostakovitch. Les spécialistes de sa musique trouvent des occurrences de sa signature avec le motif DSCH, ré mi bémol do si, assez tôt dans ses œuvres. On l'entend passer dans plusieurs pièces, mais la première apparition significative se fait dans la 10e symphonie, composée en 1953. Je vous le disais, cette 10e symphonie date de 1953. Or, cette année-là, le 5 mars, arrive un événement extrêmement important à Moscou. En fait même, deux événements. L'un intéresse l'histoire de la musique, c'est la mort de Prokofiev. L'autre est une des grandes dates de l'histoire du XXe siècle, puisque c'est la mort de Joseph Staline. C'est pour Chostakovitch un moment crucial. Voici près de 20 ans qu'il subit une angoisse constante du fait de la politique culturelle totalitaire erratique du petit père des peuples. Depuis 1936, où un article inspiré par Staline est paru dans la Pravda, comparant sa musique à une cacophonie, Chostakovitch craint chaque jour qu'on vienne frapper à sa porte pour l'emmener, l'interroger, l'envoyer au goulag, l'exécuter peut-être. Après l'article de la Pravda, Chostakovitch ne s'est pas arrêté de composer. Mais il a présenté au grand jour seulement les œuvres qui ne risquaient pas de choquer, gardant les autres pour le tiroir, comme on dit alors. Il a composé pour le public 5 grandes symphonies, de la 5e à la 9e. Mais en 1948, à nouveau, il a été stoppé en plein élan par une résolution du comité central du Parti communiste, inspirée par une visite d'Andrei Jdanov à l'Union des compositeurs. Cette résolution critique les musiciens qui s'éloignent du réalisme socialiste et accuse quelques compositeurs de formalisme. Parmi ceux-ci, Chostakovitch, Prokofiev, Miaskovski et quelques autres. « Accusé de formalisme en 1948, Chostakovitch a été à nouveau bridé dans sa créativité, n'osant plus présenter ses œuvres et ne produisant pour le public que la musique de film à la gloire du régime ou des œuvres inoffensives comme Le chant des forêts, qui lui vaut un prix Staline et 100 000 roubles de gratification. Les œuvres pour le tiroir se sont amoncelées dans le bureau de Chostakovitch après la semonce de Jdanov. Le premier concerto pour violon, le quatrième et le cinquième quatuor, des mélodies sur des poèmes de Pouchkine et des mélodies populaires juives, en pleine campagne antisémite. Pendant ce temps, en public, le compositeur fait entendre des pièces irréprochables. On l'envoie représenter l'URSS en voyage officiel, à New York, à Leipzig, pour le bicentenaire de la mort de Bach, à Vienne. Avec la mort de Staline en 1953, les choses ne changent pas radicalement. Mais au moins, le couvercle de la marmite s'est un peu soulevé. Ce thème, joué au corps, déjà entendu auparavant dans le troisième mouvement de la dixième symphonie, est un autre emblème musical. Avec une notation qui mélange lettres et notes, Chostakovitch fait entendre le prénom Elmira. C'est celui d'une de ses anciennes élèves, venue d'Azerbaïdjan pour étudier avec lui. Il a été amoureux d'elle pendant plusieurs années et en mêlant dans ce mouvement son propre monogramme musical au nom d'Elmira, il réunit leurs deux âmes dans sa musique pour l'éternité. Néanmoins, dans le final de cette dixième symphonie, au terme d'une longue progression presque frénétique, le motif DSCH reviendra seul. Les biographes de Chostakovitch, les musicologues, les commentateurs se sont longuement penchés sur cette dixième symphonie et sur la signification de l'apparition du motif DSCH, Ré, Mi bémol, Do, Si, signature musicale du compositeur. Bien sûr, difficile de ne pas la relier avec la mort de Staline, ni de constater que c'est la première symphonie qu'il compose depuis les accusations de formalisme de 1948. Certains disent que le scherzo serait un portrait musical à charge de Staline. Ce qui est certain, c'est que le surgissement dans sa musique du moi du compositeur par sa signature sonne comme une libération, tout en s'inscrivant dans la tourmente angoissante et parfois grotesque de l'époque. Après la création de la 10e symphonie de Chostakovitch sous la direction de Mravinsky le 17 décembre 1953, de nombreuses polémiques ont lieu parmi les musiciens et musicologues soviétiques. Des discussions sont organisées à la maison des compositeurs pour juger l'œuvre en quelque sorte. Chostakovitch lui-même est amené à faire son autocritique. Dans un texte qu'il conclut par ces mots, inoffensifs, « Dans cette œuvre, j'ai cherché à exprimer les sentiments et les passions de l'homme. Que dire de plus ?» Après la 10e symphonie, Chostakovitch va utiliser très souvent sa signature, le motif DSCH, Ré, Mi bémol, Do, Si. On l'entend parfois transformé et néanmoins reconnaissable, comme dans son premier concerto pour violoncelle par exemple, ou parfois tel quel, comme dans le 8e quatuor de 1960. En 1960, Chostakovitch est appelé à Dresde pour composer la musique d'un film est-allemand sur le bombardement de la ville. C'est là qu'il écrit en quelques jours son 8e quatuor. En rentrant en URSS, il confie à son ami Isaac Glickman. Les bonnes compositions de travail ont porté leurs fruits. Là-bas, j'ai composé le 8e quatuor. J'avais beau me casser la tête à écrire la musique du film, pour le moment je n'y suis pas arrivé. À la place, j'ai composé ce quatuor idéologiquement condamnable et dont personne n'a besoin. Je me suis dit que si je mourais un jour, personne ne songerait à écrire une œuvre à ma mémoire. Aussi ai-je décidé de l'écrire moi-même. On pourrait mettre sur la couverture « Dédié à la mémoire de l'auteur de ce quatuor ». Thank you. Shostakovich poursuit la description de son 8e quatuor. Le thème principal, ce sont les notes DSCH, c'est-à-dire mes initiales. J'y ai utilisé aussi des thèmes de mes différentes compositions et le chant révolutionnaire victime de la terrible prison. Mes thèmes sont les suivants. Ceux de la 1ère et de la 8e symphonie, du trio, du concerto pour violoncelle, de Lady Macbeth. Je fais aussi allusion à Wagner et à Tchaïkovski. Ah oui, j'ai oublié aussi ma 10e symphonie. Une sacrée salade. Le caractère pseudo-tragique de ce quatuor vient de ce qu'en composant, j'ai répandu autant de larmes que je répands d'urine après une demi-douzaine de bières. Shostakovich raconte à son ami Isaac Glickman son retour à Moscou après ses quelques jours à Dresde. À la maison, j'ai essayé deux fois de jouer le quatuor. Et voilà que mes larmes ont recommencé à couler. Mais ce n'était plus seulement à cause de ce caractère pseudo-tragique, c'était d'admiration devant la merveilleuse clarté de sa forme. Peut-être une sorte de ravissement pour ma propre personne a-t-elle joué un rôle ici. Le genre de sentiment qui s'évanouit rapidement pour vous laisser une gueule de bois en forme d'autocritique. L'argot final du 8e quatuor de Dmitri Shostakovich par le quatuor Borodine. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Et pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Jean-Louis Deloncle pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.